Marcel Schwab, Le voyage à Samoa. Chapitre 1. À bord de la ville de la Ciotat. Lundi 21 octobre 1901. 10 heures du matin. Ma Marguerite adorée, je commence aujourd'hui cette lettre que je ne pourrais t'envoyer que de Port Saïd. Merci d'abord de ton cher télégramme que j'ai trouvé à bord. Ma femme chérie, comme tu es bonne, comme je t'aime, et combien je voudrais de tout cœur te revenir bien portant. J'ai trouvé aussi une dépêche de maman et de Maurice. Donc, hier, après t'avoir écrit, je t'ai télégraphié et j'ai télégraphié autant. Note, Marcel Schwab avait sollicité du temps le titre de correspondant. Fin de la note. Puis, à 2h30, nous sommes allés à bord avec D. La ville de la Ciotat est un très grand bateau nouveau, mais qui roule malheureusement beaucoup. J'ai une cabine qui m'a paru d'abord atrocement petite, mais où je suis seule, et où je pourrais m'arranger tout doucement. La couchette est très bonne, mais j'ai eu une heureuse inspiration d'emporter mon oreiller. Nous sommes partis environ à 5h moins le quart de la Joliette. Il avait fait un temps épouvantable toute la nuit, et la journée à Marseille avait été très lourde. Peu de houle au départ, mais vers 5h30, le bateau se met à rouler très fort. À 6h30, presque tout le monde était malade. Le roulis devient infernal. On met le couvert pour 7h. À 7h, comme on allait dîner, deux coups énormes de roulis ont chaviré le dîner de 150 personnes, cassé toute la vaisselle et fait de la salle à manger un lac de vin, de faïence et de tessons de bouteilles, parmi lesquels nageaient des biscuits à la cuillère et des mendiants. Il a donc fallu mettre les violons, c'est-à-dire, comme tu sais, tendre des cordes sur des cadres d'acajou pour retenir assiettes, verres, etc. Tout cela n'a été prêt que vers 8h. Personne n'était plus là. D était déjà malade. J'ai essayé de manger, puis j'ai dû descendre me coucher et j'ai été malade un quart d'heure. À ce moment, le bateau roulait follement et embarquait chaque coup de roulis. Nota, la dunette est environ à 10 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Ting, qui avait commencé par dormir sur mon lit, mauvais signe, est sorti de ma cabine juste à temps pour ne pas vomir et n'a pu revenir faire mon service. Le steward m'a apporté un citron, puis je me suis très bien endormie et j'ai supporté la très mauvaise mer que nous avons traversée. Ce matin, à 6h30, je me suis levée. Le temps est très beau, un peu frais, et nous avons traversé le détroit de Bonifacio. La mer est devenue belle, mais ce grand bateau roule au moindre vent. Le paysage du détroit est magnifique. La côte corse ne paraît pas merveilleuse, mais la Sardaigne semble un très beau pays. De hautes montagnes et des falaises qui paraissent de basalte et de granit colorés en rose sous le soleil plongent directement dans la mer. Mais décidément, je n'aime pas beaucoup la Méditerranée et je ne trouve pas sa nuance très attirante. Elle est bleu-noir, sans aucune transparence. Seulement sous le soleil, elle est d'un violent argent fondu. D est gentil, mais remuant, insupportable et formaliste. Il m'a obligé à m'habiller pour dîner hier soir. Le règlement veut paraît-il, qu'on dîne en noir. Je n'ai pas de vêtements noirs. C'est insupportable comme tyrannie, car je ne vais pas me mettre en habit tous les jours. » Il y a à bord divers diplomates et explorateurs belges, des officiers en nombre et, ceci pour notre maman, deux nourrices annamites qui me semblent soigner et amuser les enfants dans la perfection. À demain maintenant, ma chérie. Nous devons être, je pense, vers 7 heures, en vue de Messine. Mardi 22 octobre. Il faisait beau hier dans la matinée, mais l'après-midi, tout s'est gâté et nous avons été chassés au large de la côte d'Italie par un grain formidable. D'abord, cela n'a été que l'orage et une pluie torrentielle. Mais ensuite, à la fin du dîner, vers 7 heures, le roulis nous a pris pour aller en augmentant. Je suis allée me coucher à 9h30, et à 10 heures, on venait me visser à fond mon hublot en prévision d'une mer démontée dans la nuit. En effet, tout s'est déchaîné peu après. Tout le vaisseau soufflait comme un animal qui peine à travers l'eau. Quant au roulis, qui d'ailleurs pour ma couchette est du tangage, je ne pourrais t'en donner une idée. Cela, tous les ais qui craquent, les cloches qui sonnent de quart en quart, les piétinements sur le pont, le déferlement des vagues contre la coque donnent un tumulte composite qui n'aide pas le sommeil. Il y en a eu pour jusqu'à 4 heures du matin. Je voulais voir le Stromboli, mais nous y avons passé dans la nuit. À 7 heures, nous étions dans le détroit de Messine, qui est admirable. La ville de Messine est allongée au pied de montagnes vertes, avec des maisons peintes, à toits plats, cubiques ou en blocs allongés. Ici, le ciel et la mer changent de couleur. Le ciel est turquoise pâle. Tout à l'heure, la mer, vert laiteux près du vaisseau, se fondait pour arriver à la côte sicilienne dans une large bande d'indigo profond, presque pourpre violet. Et, au-dessus de cette pourpre, une montagne un peu embrumée se découpait sur le ciel bleu pâle, la cime barrée d'un flocon blanc avec des rayures étoilées de neige. En ce moment, la Sicile est encore en vue, mais nous allons la quitter. Nous traversons une mer de saphir, belle mais très désagréable. Car maintenant, c'est le tangage qui nous a pris. Et pendant que je t'écris, cela va grand train. Nous en avons comme cela, au moins pour la journée. La qualité des passagers est odieuse. Le chargé d'affaires de Belgique à Pékin, chapeau gris moresse et monocle. Figure et conversation à l'avenant. Le ministre du Japon en Russie et sa femme, grand personnage mais tout petit japonais, bien vilain en pyjama. Des marchands de soie, des fonctionnaires mufles, des magistrats coloniaux et tutti quanti. Une famille hideuse, composée de filles taurines, bovines, rousses, d'un jeune homme bovin albinos et qui a l'air d'une grosse fille de ferme habillée en homme. La mère, au crâne déprimé, semble sortir de la caverne préhistorique la plus récemment ouverte. C'est la famille d'un monsieur C qui a entrepris de construire un chemin de fer en Annam et qui fait venir tout son monde à Langbian où on arrive cadeau de mulet. Le comte de P, son jeune frère, et monsieur de N, noblesse lorraine. Ces messieurs, assez gentils d'ailleurs, vont d'abord à Batavia et de là en Annam pour chasser le tigre. Puis ils comptent aller voir la Corée. Chose singulière, le jeune de paix vient de sortir de l'école des chartes. Et bien entendu, nous connaissons les mêmes gens. Mercredi 23 octobre. La journée d'hier a été odieuse. Un tangage ininterrompu sous une atmosphère lourde. Le pont ressemblait au radeau de la Méduse. On n'y voyait que des formes pâles et prostrées. De pauvres religieuses, il y en a quatre, se traînaient tous les quarts d'heure pour aller vomir le long du bastingage. Mal en train une partie de la journée, je me suis forcée à manger et j'ai fini par très bien dîner sur une mer démontée. Bien entendu, nous ne cessons pas de manger au violon et je t'assure que les dîneurs ne sont pas nombreux. C'est un détestable passage. Enfin, vers 6 heures, l'orage a éclaté. À l'ouest, un couchant de soleil rouge sang avec des nuages striés en éventail qui faisaient du ciel un dais chamarré, vaguement reflété dans la houle. La mer écumante, saphir sombre. Au sud-est, de grands éclairs illuminant tout le fond de l'horizon, épandus, zébrés, laissant, quand ils s'éteignaient, l'eau comme un désert sombre dans lequel le bateau s'enfonçait. Puis, faisant trembler le ciel et l'écume et la grande plaine de saphir fondu d'une sorte de vie électrique. À 9h30, quand je suis allée me coucher, Ting avait le mal de mer. J'ai assez bien dormi, et ce matin, le ciel est couvert et nous avons une mer mauvaise et sans couleur, roulis et tangage combinés. Nous faisons, paraît-il, 15 nœuds à l'heure, et, selon les prévisions, nous serons à Port Saïd demain soir, jeudi 24, vers 6 heures. J'ai à y acheter des vêtements blancs ou kaki. La mer Rouge, me dit-on, ne peut être supportée que dans cet uniforme. Dieu sait que ce n'est pas par goût que je m'habillerai ainsi. Même jour, 2 heures. Le temps a changé, il fait beau, et décidément, je ne résiste plus à la beauté de la mer ionienne. Ici, la réalité satisfait l'imagination. Le ciel bleu pâle est parsemé de petits moutons blancs. La mer clapotante d'un clapotis inutile et d'un bleu profond inexprimable. C'est de l'eau faite avec du saphir fondu et du saphir de l'Inde, comme celui de ta bague. Tout à l'heure, à bâbord, à 500 mètres, se balançait sur ce clapotis de saphir un bateau tout blanc, à haute voilure divisée en carrelés. On aurait dit une mouette qui hérisse ses plumes. Et à droite de la mouette blanche, séparée d'elle par un lac de saphir en fusion, les montagnes de la crête, arides comme les cimes des Pyrénées, tachetées de verdure et embrumées, de longues montagnes qui s'allongent vers l'est et avancent en montant, avec une seule maison éclatante de blancheur sur un col jaunâtre. Puis des pics plus hauts, avec des plaques de rochers qui brillent et de légers nuages où ils se perdent. Le point consulté, il en apparaît que nous serons à Port Saïd demain jeudi dans la nuit, vers minuit, trop tard pour que je puisse rien y acheter, car on n'y reste que 3 ou 4 heures. Ensuite, l'escale est Djibouti, d'où je pourrais t'écrire encore. J'espère même te télégraphier de Port Saïd, si bien que tu aurais des nouvelles avant que cette lettre t'arrive. » La sottise des passagers, comme la beauté de la Mérionienne, satisfait l'imagination. Voici la conversation que j'ai entendue hier de mon fauteuil entre trois hommes du meilleur monde qui se mettent en smoking tous les soirs. « Ah, mon cher, avez-vous lu Quo Vadis ? Croyez-vous que c'est beau, hein ? Il y a là des descriptions. » B. Oui, oui, et j'ai lu Par le fer, par le feu. Des gens admirables, ces Polonais, et gamins au milieu de leur tuerie, hein? Et ces quatre héros. Mon cher, savez-vous ce que ça rappelle, ces quatre-là? Ça m'a rappelé étonnamment les trois mousquetaires. Mais, dame, ça enfonce tout. C. Moi, j'ai lu tout ça aussi, mais c'est difficile, à cause de la quantité de personnages. Voyons, Poppée, c'était bien la femme de César. Ah, il y en a tant de ces Césars, mais ça ne fait rien. Sicossier, Sienkiewicz, est un rude homme. Tenez, autre chose, Salambo. Eh bien, il y a là le passage des armées, avec la description de tous les peuples divers. Eh bien, c'est magnifique. Ah, Salambo, c'est fort. Mais Sicossier, ce n'est pas à comparer. Il y a là des tueries, mon cher. B. Oui, oui, eh bien, je suis allé voir ça au théâtre, Quo Vadis. Ça ne dit rien. A. Parce qu'ils n'ont pas su s'y prendre. Ainsi, moi, je l'ai toujours dit. La scène des arènes, magnifique. Ils ont fait passer ça dans la coulisse. Tandis que, avec le goût moderne des sports, s'ils nous avaient montré ça, l'arène, les jeux antiques, mon cher. B. Oui, mais la scène de la porte Saint-Martin, il aurait fallu l'hippodrome. C. Oui, oui, l'hippodrome. A. Papa. C. Tirant son carnet. À propos, dites donc, on m'a recommandé de lire quelque chose. Il paraît que c'est très rigolo. Ça s'appelle « Le festin de Trimalcion ». C'est par Pétrone. Ah, avec mépris. Alors, c'est une traduction. D'ailleurs, ce n'est pas celui de Sicossier, vous savez. Mais, mon cher, lisez « Par le fer, par le feu », n'est-ce pas ? B. Oui, oui, les trois mousquetaires, je vous dis. A, claquant de la langue. Ah, ce Sicossier. Je n'en ai pas entendu davantage. Jeudi 24 octobre, 10h du matin. C'est aujourd'hui que je fermerai cette lettre. Nous roulons horriblement et c'est tout ce que je puis faire de t'écrire. Nous avons roulé toute la nuit, mais je vais bien. Hier, comme je te le disais, nous avons longé la crête et nous avons vu de près la petite île de Gavdo. C'est une sorte de narval schisteux qui s'allonge sur la mer. Et cette bête monstrueuse a son petit derrière elle, un îlot qui s'appelle Gavdopoulo, l'enfant de Gavdo. Rien que du schiste taché d'une lèpre noire, aride. Une crête où se profilent des arbres ténébreux, à la tête feuillue, malingre. Des taches d'ocre çà et là. La roche feuilletée plongeant depuis la cime directement dans la mer. Un petit phare blanc solitaire sur le dos du monstre. Et le long museau du narval est percé au bout de trois arches à travers lesquelles on voit trois saphirs faits de mer ionienne. En avant, parmi un peu de brume, ce qui semblait d'abord une voilure carrée de feu. À la longue vue, ce sont des rochers triangulaires et carrés qui émergent de la mer et que le soleil couchant fait flamboyer. On dirait un dolmen marin dans un brouillard d'incendie. Le ciel est bleu de turquoise pâle, puis verdois comme de la turquoise qui meurt, et juste au milieu de ce verdoiement délicat, un petit nuage semble une tache de rappel de la Méditerranée. Il est de son bleu. Le saphir a laissé sa touche sur la turquoise comme une traînée d'or sur la pierre d'épreuve. Les nuages se font violet sombre. Deux miroirs d'argent bouillant y éclatent. Le disque rouge du soleil plonge dans le bleu obscur, et tout de suite la nuit et les reflets de la lune sur la houle. Hier soir, on a dansé. J'ai longuement causé avec le ministre japonais. Il est intelligent, mais ne parle qu'anglais. Il était très curieux de se rendre compte du succès de Sadayako. Elle est inconnue au Japon. Mais Kawakami, en revanche, est plus connu. Il n'y a pas de métier qu'il n'ait fait. C'est lui, comme tu l'avais bien vu, qui a du talent et qui a dressé Sadayako. Elle aurait près de 40 ans. Comme je disais au ministre, la triste réception qu'on trouve à la légation de Chine, il a cligné de l'œil et m'a répondu « Why did you not ask for the daughter of Mr. Yu? They would have been delighted, I assure you, and they can speak English if the secretaries cannot. » À minuit, le roulis a commencé. J'ai dû sonner pour faire donner un tour de vis à mon hublot. Et ce matin, les violons sont tendus, comme de juste. Mais l'air est délicieux. La houle est si jolie qu'on regretterait qu'il n'y en eût pas. Comment te dire le bleu profond de cette mer? C'est du saphir, mais du saphir vivant. C'est la couleur d'yeux de femme qu'on n'a jamais vue et qui sont transparents mais insondables, d'une sorte de pureté à la fois limpide et solide. Joyaux vifs, uniques, sous ce ciel bleu pâle et blanc de brume. Et la crête de cette houle de saphir est faite en poussière de diamants liquides qui s'envole comme une aigrette légère à travers laquelle le soleil fait passer l'arc-en-ciel. Je voudrais tâcher d'écrire ces choses pour moi, mais je n'en ai pas le cœur. À toi, je puis les dire. Elles sont mal dites, mais garde-les-moi tout de même. Elles me serviront de journal, et j'espère qu'elles te feront vivre un peu de ma vie. Dis-toi surtout que si je suis bien triste d'être séparée de toi, je supporte bien ce voyage, que j'aime passionnément la mer et qu'il faudra bien que cela me fasse du bien. Jusqu'à Djibouti maintenant,